Languedoc 90.5, à l'occasion de la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, nous accueillons aujourd'hui Bruno Soula, administrateur de l'association narbonnaise AB Autisme et du PCPE. Adicias, bonjour.
Bonjour.
Alors dans un premier temps, je pense qu'il serait adéquat d'expliquer à nos auditeurs l'autisme, qu'est-ce que c'est ?
Alors l'autisme, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, n'est pas une maladie psychiatrique. C'est un trouble du comportement. Pour vous donner un tout petit exemple très simple, lorsque vous plantez un clou dans un mur, vous allez planter, mais si vous loupez ou vous tordez le clou, vous allez peut-être un petit peu jurer, vous allez vous énerver, mais en même temps que vous allez jurer, vous allez en même temps trouver la solution et vous allez changer et recommencer. L'autisme, c'est justement des personnes qui ne peuvent pas exprimer leur problématiques et automatiquement, ils vont faire des crises concernant leur comportement et automatiquement, ils vont s'énerver et ils ne vont pas trouver la solution. Pour vous donner un exemple de personne autiste très connue, que vous avez certainement déjà vu à la télé, c'est le chanteur Mika. Le chanteur Mika est autiste et quand vous le voyez avec dans des émissions comme The Voice, quand il monte comme Vianney sur le fauteuil, ou qu'il part en courant, ou qu'il il a des attitudes un petit peu surprenantes, bah c'est justement parce que c'est sa façon à lui de gérer son comportement pour pouvoir rentrer dans la normalité. Notre travail à nous est justement, à force de répétition, à force de travail avec les enfants, de leur faire acquérir des automatismes que nous avons pour nous, mais de leur apprendre des automatismes face à des situations difficiles.
Comment on diagnostique à l'heure d'aujourd'hui, en 2021, cette maladie en France ?
Alors, déjà, ce n'est pas une maladie, comme vous venez de le dire.
C'est ça.
C'est un trouble du comportement. Pourquoi ce n'est pas une maladie et pourquoi c'est un trouble du comportement ? Je vais vous expliquer tout simplement. C'est que quand il y a une maladie, automatiquement, vous avez des symptômes, c'est-à-dire vous avez de la fièvre, vous avez mal à la gorge, vous éternuez, vous avez des symptômes qui définissent une maladie. L'autisme, il n'y a pas de symptômes. Il y a ce que l'on appelle des syndromes, c'est-à-dire des attitudes qui, au départ, font penser qu'on s'oriente vers l'autisme. Par exemple, quelques syndromes, un enfant qui marche sur la pointe des pieds, un enfant qui ne regarde pas les personnes autour de lui, un enfant qui fait tout le temps tourner des objets ronds, un enfant qui, lorsque il mange, ne veut pas manger à table avec les autres, a besoin de manger seul, un enfant qui fait des crises, on ne sait pas pourquoi. Voilà, ça ce sont un certain nombre de syndromes qui sont mis les uns et les autres, les uns derrière les autres, et qui permettent à un moment de pouvoir définir le fait que cette personne est atteinte ou pas d'autisme. Chose différente aussi, qui dit maladie, dit soigner. Qui dit soigner avec des cachets, on donne des cachets, on donne des traitements, et automatiquement à l'issue de ces traitements, eh bien, les personnes sont guéries. Le problème de l'autisme, c'est qu'on ne guérit pas de l'autisme. On est autiste et on reste autiste toute sa vie. On ne guérit pas de l'autisme et on vit avec l'autisme toute sa vie. C'est pour ça que les parents, nous avons un gros travail de guidance parentale parce qu'il faut faire accepter aux parents le fait que leur enfant va être autiste toute sa vie et qu'il va falloir avoir une guidance par rapport à lui importante. C'est un gros travail qui se fait avec le temps et nous conseillons aux parents de continuer quand même à avoir une attitude tout à fait normale avec ses enfants, de ne pas les considérer comme des enfants handicapés, de les considérer et de les élever comme des enfants normaux.
À l'heure d'aujourd'hui, combien y a-t-il de personnes autistes en France ? Et aussi plus particulièrement dans l'Aude et le Narbonnais au final.
Alors aujourd'hui, si vous voulez, je ne peux pas vous donner de chiffres précis. Le nombre d'autistes en France est d'environ, je dis bien d'environ, 680 000 personnes, mais c'est à la louche, hein, c'est une estimation. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'autisme fait partie d'un buzz, d'un scoop qui fait que lorsque quelqu'un a un comportement un peu bizarre, un peu différent, et qui n'est pas tout à fait correct par rapport à la normalité, à la société, souvent on le met dans la case autisme. Donc, en gros, il y a environ 600 et quelques mille personnes autistes en France. Ça fait à peu près l'équivalent du département de la Vendée, ce qui n'est pas rien quand même. Il faut savoir qu'un enfant sur 100 naît autiste. Et au niveau de l'autisme, c'est quelque chose qui aujourd'hui commence à être mieux, de mieux en mieux cerné, parce que justement, depuis le 2012, le président de la République, M. Hollande, et Mme Carlotti, la ministre du handicap à l'époque, ont prôné le fait qu'il fallait basculer de la psychanalyse vers le comportemental. Pour notre association, depuis que nous sommes le PCPE autisme du département, sachez que le PCPE veut dire pôle de compétences et prestations externalisées. Nous ne recevons que des enfants autistes. On ne reçoit pas de polyhandicap. On ne reçoit pas d'enfants qui sont trisomiques, d'enfants qui ont d'autres syndromes, qui ont des problèmes, disons, intellectuels différents, etc. On ne reçoit que des autistes. Mais on en parlera, je crois, après tout à l'heure, sur les conditions d'admission. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous prenons en charge dans le département, c'est-à-dire depuis la Bastide d'Anjou jusqu'à Fitou et jusqu'à... comprendre la région bitéroise, puisqu'on prend aussi le Bitérois, une cinquantaine d'enfants, 55 enfants autistes, qui sont pris en charge de façon individuelle. Voilà.
Justement, on va rentrer dans le vif du sujet avec la prise en charge. Une prise en charge et un accompagnement qui est parfaitement illustré là, à l'échelle du Narbonnais et de l'Hérolté, par votre association. Du coup, je vous laisse nous décrire un peu et décrire à nos auditeurs, AB Autisme, c'est quoi au final cette association ?
On va faire un petit peu d'histoire en ce sens où nous avons créé cette association parce que nous avions adopté un jeune homme, aujourd'hui qui a 24 ans, en Bulgarie, et puis on s'est aperçu à l'âge de 3 ans qu'il était autiste. Et donc, on a essayé de trouver des solutions. On s'est aperçu qu'il était en IME, que la prise en charge était ce qu'elle était, mais nous voulions quelque chose de beaucoup plus précis par rapport à l'autisme, et en particulier une prise en charge comportementale de type prise en charge ABA, qui est une prise en charge américaine. Et on a créé cette association pour mettre en place ce système-là. Lorsque nous l'avons créé, cette association, en 2009, ma femme a commencé à travailler avec quelques enfants, et puis, de fil en aiguille et le succès arrivant, elle a commencé à avoir 15, 16, 17 enfants en charge dans tout le Languedoc-Roussillon. Donc tous les jours, elle prenait sa voiture pour partir depuis Céré jusqu'à Nîmes, en passant par Castres, Cassène-Audary, etc., etc., pour travailler. Et ce qui s'est passé, c'est que un jour, un parent nous a demandé de créer, si on pouvait créer, une structure comportementale. Alors, de façon vulgaire, on va dire une école, alors que nous ne sommes pas du tout une école, mais une structure comportementale pouvant prendre en charge les enfants autistes. On s'est renseigné, j'ai eu la chance d'avoir un rendez-vous avec Madame Touraine, à l'époque. Je lui ai exposé notre projet en 2015. Nous avons monté le dossier et en janvier 2016, nous avons été agréés par le ministère de la Santé qui nous subventionne, toute petite subvention, pour pouvoir nous occuper de ces enfants. Donc nous avons commencé à prospérer. Nous sommes battus avec l'ancienne mairie de Narbonne pour avoir un local. Et l'ancienne mairie de Narbonne nous a donné une petite crèche, rue Laglaire, de 60 mètres carrés, qui s'est avérée très vite un peu étroite. Et par la suite, nous avons, par nos propres moyens, récupéré un hangar qui devait être un atelier de mécanique auto pour créer notre structure qui est juste à côté de la crèche. Donc aujourd'hui, nous pouvons recevoir donc tous ces enfants. Et la façon de les recevoir est la suivante, c'est que lorsque des parents souhaitent que leur enfant ait une prise en charge comportementale, automatiquement, nous avons des psychologues, deux, qui ont, on va dire, toutes les accréditations concernant le comportemental et cette prise en charge américaine, qui évaluent les enfants, qui donnent un programme écrit, c'est-à-dire que nous sommes les seuls à fournir un programme écrit. Nous n'arrivons jamais à obtenir ce genre de programme de la part des autres instances. Peut-être est-ce une façon de travailler différente, on ne la juge pas du tout. Mais on a un programme écrit qui est donné aux parents, qui est donné aux intervenantes et qui est donné à la chef de service. Automatiquement, ce programme est créé selon trois points précis, trois points prioritaires qui ont été définis avec les parents. Par exemple, la propreté, le fait de manger à table avec les autres, et puis peut-être de commencer à s'exprimer, à communiquer. Ça, c'est trois points qui vont être travaillés pendant deux mois et demi. Pendant ces deux mois et demi, on ne va travailler que ces points-là. Et à l'issue, la psychologue va refaire une évaluation, va refaire un compte-rendu écrit, et va dire, ah tiens, dans ce point-là, ça s'est bien amélioré, c'est parfait, il l'a acquis. Ce point, il y a quelque chose qui est apparu, donc on va faire autre chose. Et elle redéfinit deux ou trois nouveaux points que l'on va retravailler pendant deux mois, trois mois, et automatiquement, on va progresser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que notre notoriété vient du fait que nous obtenons des résultats très concrets avec ces enfants.
Donc un accompagnement qui se veut aussi rassurant, autant pour la personne qui est atteinte d'autisme que pour les parents, et puis un vrai encadrement au final autour de ces familles.
Voilà. Alors au niveau de l'encadrement que nous avons, la première chose, c'est que nous sommes référencés au niveau du ministère de la Santé. Nous sommes subventionnés par l'Agence régionale de santé, Occitanie. Nous sommes référencés au niveau de la MDPH, c'est la Maison départementale des personnes handicapées du département de l'Aude et du département de l'Hérault. Nous sommes aussi référencés au niveau de l'éducation nationale, puisque nous sommes reconnus au niveau du rectorat et de l'antenne handicap du département de l'Aude. Donc ça, c'est vraiment le fait que nous sommes maintenant cadrés dans la loi, dans la légalité. L'important est que le travail avec l'enfant est un travail qui est fait en individuel. Je suis très précis là-dessus parce que quand un enfant rentre dans nos locaux ou quand on va travailler chez lui ou quand on va à l'école, on ne va s'occuper que de lui. On ne travaille pas en groupe de 3, 4 ou 5 enfants comme ça peut se passer dans l'IME, dans les différents IME de la région narbonnaise ou en France. On travaille vraiment en individuel avec cet enfant. Et ensuite, on intervient donc dans nos locaux, au domicile, à l'école et dans tous les lieux de vie où peut graviter l'enfant.
On parlait tout à l'heure de Mika. C'est pour nous l'occasion de faire une petite pause musicale avec Relax, Take It Easy de Mika. Bonne écoute!
Train with nobody I know.
De retour avec Bruno Soula, administrateur de l'association AB Autisme et du PCPE. Votre association, surtout, elle encadre des personnes atteintes d'autisme de 2 à 20 ans. Vous avez un encadrement spécialisé, mais après, qu'est-ce qui se passe dans leur vie à eux ?
Alors nous, la prise en charge des enfants se fait de 2 à 20 ans, une prise en charge individuelle, une prise en charge comportementale, qui se fait 2 fois 2 heures par semaine. À l'issue des 20 ans, puisque ce n'est pas nous qui décidons l'entrée d'un enfant dans notre association, mais c'est la MDPH quand même et l'ARS, à l'issue de l'arrivée à 20 ans, eh bien cet enfant redevient livré à lui-même et à ses parents. Nous avions proposé un projet pour continuer cette prise en charge après 20 ans. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau professionnel, il est quand même très difficile de pouvoir engager un parcours professionnel pour l'ensemble des personnes autistes. Vous avez dans les autistes un certain nombre de catégories, je veux dire, mais ce n'est pas le terme exact. Vous avez des autistes Asperger, vous avez des autistes qui sont beaucoup plus lourds, des autistes non-verbaux, des autistes... Il y a différents types d'autisme. Et si vous voulez, le problème aujourd'hui est que, autant avec quelques autistes Asperger, on peut envisager, parce que ce sont des gens qui parlent, qui communiquent, qui sont intelligents et qui ont la possibilité de s'insérer dans la société, il y a possibilité de les orienter vers une formation professionnelle, de les orienter vers une activité professionnelle, mais souvent cette activité sera quand même encadrée. Voilà. Pour vous donner un petit exemple, nous avons un jeune homme aujourd'hui qui a 15 ans, qui s'appelle Lucas, que l'on suit nous depuis déjà maintenant, on va dire, près de 10 ans, qui était complètement asocial, qui était invivable, qui cassait tout, qui ne supportait pas d'être en groupe avec d'autres personnes, qui ne supportait pas l'école. Et à force de travail que nous avons fait avec lui, il a réintégré l'école. Aujourd'hui, il est en collège, dans un collège du Narbonnais ou du Lézignanais. Il est dans un collège, il va passer le BEPC cette année, donc ça se passe très bien. Et surtout, il est champion de France de cross pour enfants handicapés. Ce n'est pas le travail, moi je ne suis pas sportif, donc ce n'est pas le travail que l'on a fait pour le faire gagner les championnats, c'est les parents qui ont travaillé, parce qu'on a travaillé en corrélation avec eux, mais c'est surtout ce processus comportemental qui a mis en œuvre et qui a mis en avant ses capacités et qui ont permis de lui faire acquérir une autonomie qui lui permet aujourd'hui d'être socialement intégré.
Qu'est-ce que vous aimeriez dire à nos auditeurs, vraiment d'important pour clore cette interview ? Quelque chose qui vous paraît à vous important en 2021 de dire à tout le monde au final ?
Alors, je vais répéter ce que j'ai dit en tout début d'interview, parce que à mon avis c'est capital. L'autisme n'est pas une maladie psychiatrique, c'est un trouble du comportement. Il faut bien le comprendre. C'est comme des gens qui sont colériques. Bon, ils sont colériques, on le sait, donc voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne guérit pas de l'autisme, on vit avec. Donc c'est une adaptation, une acceptation des autistes. Or aujourd'hui, dans notre société, on regarde toujours les autistes un petit peu comme, ou les enfants, on va dire, à problème du syndrome autistique, comme des cas particuliers, des erreurs de la nature, des problèmes, alors qu'il faut les intégrer et vivre normalement. C'est le travail que nous faisons. C'est un combat que nous menons. C'est un combat qui fait qu'aujourd'hui, des associations comme la nôtre en France, je dis bien en France, il y en a, on va dire, 4. Sachez que dans la seule ville de Londres, il y a 56 écoles comme la nôtre, pour les autistes. Donc ça vous donne un petit peu une idée de la façon dont c'est pris en compte ailleurs qu'en France. Et en France, il faut que nous mettions tous à faire en sorte que l'autisme soit pris comme étant non pas une maladie psychiatrique, mais un trouble et un handicap pour lequel il faut aider ces enfants à s'intégrer dans la société.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup Bruno Soula de nous avoir donné de votre temps et d'avoir accepté notre invitation. Et puis, bonne continuation à vous et à votre association.
Merci beaucoup.
Et à Dicias.
Merci.